La météo, partiellement à très nuageuse encore avec risque
d'abattable sur Arabelle.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Cash sur Table, consacrée ce soir au monde des affaires, au business, à l'entrepreneuriat, mais exclusivement au féminin. J'ai le plaisir de recevoir quatre invités. La quatrième va nous rejoindre dans quelques instants. Quatre femmes inspirantes qui changent un petit peu le monde de business. Tout d'abord, Juliette Malherbe, nouvelle directrice de HiHer. Bonsoir.
Bonsoir.
Camille Rimbaud, fondatrice de l'ASBL Inspired By. Bonsoir. Bonsoir. Et Zineb Ben Said, qui est vice-présidente, cofondatrice de Mon Anglais des Patrimoines. Je vais essayer quand même, stratégie internationale, business development, investissement. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et voilà. Et Yasmine Delmonté, entrepreneuse sociale et fondatrice de l'organisation internationale Stronger with Words, va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà. Donc le monde du business, la place des femmes, leurs combats, un petit peu leurs défis, leurs réussites. On va aller dans le détail un petit peu tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va faire plus ample connaissance pour parler de vous, de votre actualité immédiate ou encore celle qui va venir. Je commence par vous, Juliette Malherbe, nouvelle directrice de HiHer. Une carte de visite tout d'abord.
Alors HiHer, c'est une ASBL qui a pour but d'aider les femmes entrepreneuses dans leur levée de fonds. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui réussissent à lever des fonds et donc on les aide dans leur gestion financière et dans la croissance de leur entreprise.
Mais je voudrais aussi une carte de visite de Juliette Malherbe. Qui est-elle ?
Alors, à côté de ça, je travaille chez Orange depuis 9 ans. Oui. L'inclusion numérique. Donc, j'ai travaillé d'abord dans tout ce qui est accélération de start-up, dans l'entrepreneuriat et les ponts qu'on fait entre les corporates et le monde entrepreneurial. Et puis, dans l'inclusion numérique aujourd'hui avec l'Orange Digital Center.
Alors, j'en profite, il y a un événement demain, le 3 octobre, je pense. C'est bien la Monnaie Académie qui démarre. Quelques explications peut-être.
Donc demain avec HiHer, on commence 10 semaines de formation. On a sélectionné 20 entrepreneuses qui sont prêtes à faire décoller leur entreprise. Et donc pendant 10 semaines, on va les former à tout ce qui est gestion financière, relation à l'argent, négociation, leadership, pour la faire rencontrer des investisseurs et lever des fonds.
Et je me tourne à présent vers Camille Rimbaud, fondatrice de l'ASBL Inspired By. Même question, votre histoire, votre parcours.
Alors mon histoire, mon parcours, moi j'ai un background en corporate, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant plusieurs années. Et puis suite à un burn-out, en fait, j'ai voulu remettre du sens dans ma vie professionnelle et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui avaient fait des longues études et qui travaillaient quelques années et qui puis tout d'un coup se disaient « Ouh là là, qu'est-ce que je fais là? Ça n'a plus de sens. » Et donc j'ai lancé cette ASBL Inspired By avec cette intention de réinspirer en fait ma vie professionnelle et la vie professionnelle des personnes qui nous rejoignent dans cette aventure. Et donc ça prend en fait particulièrement la forme d'un sommet qui s'appelle le sommet de l'inspiration professionnelle.
Et c'est pour bientôt.
Et c'est pour bientôt. On vient de lancer le site, voilà, juste avant. Ça sera du 5 au 11 novembre prochain. Et donc c'est un sommet en digital et en présentiel qui vise vraiment à repenser le monde du travail. Donc on a des conversations sur plein de sujets. On pourra revenir dessus, mais voilà, vraiment recréer, créer le monde professionnel de demain avec plus d'humains, plus d'épanouissement et plus de durabilité.
On va en parler, je vois qu'il y a pas mal de monde, 5000 participants de la Belgique, mais pas que, je pense d'autres pays.
Exactement, en fait, vu qu'on l'a lancé juste après le Covid, on a pu le lancer en digital et donc on a des participants qui viennent des quatre coins du monde et on a des speakers qui viennent de toute la francophonie, donc c'est très chouette.
Je dis aussi redéfinir la notion de succès, c'est un peu l'axe central de cette édition. Qu'est-ce que vous entendez par notion de succès ?
Eh bien justement, c'est une bonne question. Je pense que si on posait la question autour de la table, on aurait plein de réponses qui sont différentes. Mmh. Moi, j'ai grandi en tout cas avec une version du succès qui était de faire des études, d'aller le plus loin possible, d'avoir un job qui payait bien, une voiture de société. Et puis, je me suis dit que ça allait me permettre d'être bien après. Et ben en fait, je me suis retrouvée dans un boulot qui me payait bien certes, mais qui n'avait aucun sens. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, justement, on a cette possibilité de venir, et c'est un peu la démarche du sommet, c'est de revenir à l'intérieur et de se dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux ? Au-delà de ce que veulent mes parents pour moi, ma famille pour moi, la société pour moi, qu'est-ce qui, moi, me rend heureuse en fait, au quotidien, et de se donner la chance en fait, de créer une vie professionnelle et une vie de manière plus générale qui soit autour de ça.
Une autre femme inspirante, Zineb Ben Said, qui est vice-présidente et cofondatrice de stratégie internationale, business development, investissement. Voilà, j'y arrive. Alors, si vous voulez bien, une carte de visite pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Je sais déjà que cette carte est assez longue.
Voilà, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Donc, j'ai cofondé DealFox, qui est une société basée au Luxembourg. Et on fait en fait tout ce qui est deal making. Donc, on connecte des investisseurs avec, on appelle ça des trusted advisors, avocats, experts comptables, professionnels réglementés, qui pour compte de leurs clients cherchent du financement. Et donc, on a développé autour de ça, en utilisant en interne une plateforme tech, qu'on a développé en interne pour pouvoir matcher en fait les différents profils. Je suis aussi vice-présidente de la société Isfin, qui est basée en Belgique. Mmh. Et on fait du développement sur les marchés internationaux, notamment les marchés émergents. Donc j'ai notamment travaillé beaucoup au Moyen-Orient, oui, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et aussi, j'ai un nouveau chapeau, oui, qui est Women in Tech. Donc, il y a un réseau global qui est présent dans 60 pays. On est plus de 250 000 membres et je suis la représentante pour la Belgique et le Luxembourg.
Alors, je complète votre carte de visite parce que vous ne m'avez pas répondu directement. Vous avez une licence en économie, gestion à l'Université de Lille, un master en économie et en management internationaux avec une spécialisation en intelligence économique, stratégie et compétitivité internationale, tout un programme. Pourquoi le choix du Luxembourg ?
Pourquoi le choix du Luxembourg ? Parce que, en fait, l'écosystème luxembourgeois est très intéressant pour les start-up et c'est aussi un pôle financier important, donc au niveau des fonds d'investissement, des banques. Mmh. Et donc, c'est pour ça que, justement, en termes d'investisseurs et en termes de reach, c'est là où on s'est installé. Quoi.
Alors, l'entrepreneuriat au féminin en Belgique, il y a quelques chiffres. En Europe, 1,8% seulement des levées de fonds en capital risque bénéficient à des entreprises dirigées par des femmes. Juliette Malherbe, vous tirez la sonnette d'alarme, j'ai vu ça, c'est important de le faire.
Effectivement, il y a un travail à faire au niveau des femmes entrepreneuses, mais aussi au niveau des fonds d'investissement. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes dans les fonds d'investissement, que tout ce qui est femtech, donc toute la technologie pour les femmes, que ce soit au niveau des cycles menstruels ou des grossesses, est aussi sous-financé et on a besoin de financer ces secteurs-là parce que on représente la moitié de la population et qu'il y a vraiment une importance à ce niveau-là et même au niveau économique aussi de se dire qu'on investit dans les femmes.
Une réaction peut-être, Zeynep ?
Oui, tout à fait. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Juliette. En fait, il y a une grosse problématique au niveau des femmes dans l'entrepreneuriat et au niveau de l'accès au financement. Et donc, c'est des problématiques qui sont soulevées souvent, même au Luxembourg ou en Belgique. Et donc, au Luxembourg, par exemple, il y a différentes initiatives qui sont faites par des femmes, non seulement qui permettent de coacher et donner du financement. Et donc ça, je trouve que c'est une très belle démarche. Mais aussi, je pense que chacune a son histoire. Et donc l'idée, en fait, c'est d'être tous ensemble pour pouvoir justement relever les challenges féminins.
Alors vous parlez du Luxembourg qui ne compte que 6% de femmes fondatrices parmi 550 startups dont vous faites partie.
Tout à fait.
C'est toujours aussi compliqué en tant que femme de gravir les échelons dans ces secteurs, disons, plutôt masculins.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'étais en plus sur les marchés émergents, Moyen-Orient, Afrique aussi, qui sont plus masculins. J'étais dans la finance, investissement, qui sont aussi plus masculins, plus la tech. Je coche un peu toutes les cases. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint en fait le mouvement aussi Women in Tech. C'est pour pouvoir justement donner des voix aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer et donner d'autres possibilités à d'autres femmes de pouvoir évoluer.
Camille Rimbaud, une réaction aussi ?
Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai investi en fait dans des startups il y a quelques années. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans ce monde-là sans vraiment le décider. Et j'ai eu l'occasion récemment d'assister à des forums en fait en lien avec l'investissement. Et je me suis sentie entourée de beaucoup, beaucoup d'hommes. Oui. Et en même temps, ce sur quoi j'avais envie de rebondir, c'est qu'une des choses qui m'est vraiment apparue récemment, c'est que j'ai jamais attendu qu'on me donne une chaise pour m'asseoir à une table. Je l'ai prise moi-même. Et donc, en fait, je me suis retrouvée récemment à avoir des conversations avec des investisseurs, avec des fonds, alors que je ne connais rien, en fait, à tout ça. Et j'ai juste décidé que j'allais apprendre et que je n'étais pas plus bête que qui que ce soit. Et que, voilà.
Voilà. Est-ce qu'on peut aussi imaginer un nouveau monde professionnel où les femmes auraient toute leur place ou, Camille Rimbaud, est-ce que c'est encore trop tôt ?
Ah non, c'est pas trop tôt, non, je pense pas, en tout cas, j'espère pas. Je pense qu'il est même, alors, il est évidemment pas trop tard, mais je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité. Je pense qu'on a vraiment besoin de pouvoir recréer un monde professionnel où il y ait plus de femmes qui soient justement dans des positions de décision, parce que je pense que ça permettra de prendre des décisions qui sont différentes et qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de problématiques au niveau des entreprises, mais du monde de manière plus générale, qui vient aussi, je pense, de l'absence de femmes dans des positions de direction. Donc ça se fait petit à petit, hein, mais je crois vraiment que justement avec tout ce qui est entrepreneuriat, on peut vraiment aussi former les jeunes femmes en fait à décider en fait de ce qu'elles ont envie de faire de leur vie et de pas attendre que un homme vienne en fait les inviter à faire quoi que ce soit. Quoi. Je crois que c'est vraiment important.
Voilà, je vous l'avais promis, Yasmine Del Monte vient de nous rejoindre, entrepreneuse sociale. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes entrepreneuse sociale et fondatrice de l'organisation internationale Stronger with Words.
Tout à fait.
Alors, peut-être une carte de visite. Qui est Yasmine Del Monte?
Bonjour tout le monde. Bonsoir. Je suis vraiment très ravie d'être là aujourd'hui parmi vous. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis une entrepreneuse sociale. Donc, je suis une entrepreneuse sociale. Donc, j'ai commencé mon parcours aux États-Unis, donc en Assemblée des femmes à New York, parce que j'ai entamé mes études là-bas.
Oui. Alors, je pense qu'on a juste un petit problème technique de micro. Je vais peut-être vous demander de partager le micro avec Camille, si vous pouvez vous déplacer. Voilà, ça arrive dans toutes les grandes radios, c'est tout à fait normal. Donc, je repose la question, qui est Yasmine Del Monte?
Donc voilà, Yasmine Del Monte qui est là aujourd'hui avec vous. Donc, c'est une entrepreneuse sociale qui a commencé ses carrières aux États-Unis, là où j'ai fait mes études. Après, j'ai commencé ma carrière en Assemblée des femmes à New York, également dans une organisation de leadership américain. Et avec tout ce que j'ai pu acquérir là-bas comme expérience, je me suis dit, vas-y, je vais prendre mon petit sac et mettre toutes mes connaissances dans ce petit sac-là et revenir en Belgique pour justement créer l'ISBL Stronger with Words, qui aide les jeunes, les femmes à s'émanciper dans la société à travers la prise de parole en public, l'entrepreneuriat, le leadership, la diplomatie, tout ça à travers différents programmes pour qu'on puisse justement les accompagner et les émanciper dans cette société. À côté de ça, donc je suis coach de prise de parole en public, d'art oratoire et de débat, de tout ce qui est leadership, d'entrepreneuriat.
Ça fait beaucoup de choses.
Oui, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Voilà, ne bougez surtout pas, on se retrouve juste après une petite pause.
19h-20h, Cache sur table sur Arabelle.
Cache sur table consacré au monde des affaires, au business, à l'entrepreneuriat, mais exclusivement au féminin. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Juliette Malherbe, nouvelle directrice de HiHer. Rebonsoir.
Bonsoir.
Yasmine Del Monte, qui est entrepreneuse sociale et fondatrice de l'organisation internationale Stronger with Words.
Bonsoir.
Mon anglais, je vais bien écouter. Et puis Camille Rimbaud, fondatrice de l'ISBL Inspired By. Rebonsoir.
Bonsoir.
Et pour nous accompagner également, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Zineb Ben Saïd, vice-présidente, cofondatrice de Stratégie Internationale Business Développement Investissement. Rebonsoir.
Bonsoir.
Alors je retourne vers vous, Yasmine Del Monte. Vous organisez un événement, je pense, le 7 octobre, qui vise, vous dites, à déconstruire les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans leur parcours professionnel et leur accession à des postes de leadership. L'événement d'abord, et pourquoi c'est important de le faire?
Alors donc, l'événement aura lieu le 7 octobre à la salle culturelle du Centre Pôle Nord. Le but vraiment de cet événement, c'est vraiment briser les plafonds de verre et aussi que les femmes se sentent légitimes dans les postes de leadership, mais aussi dans l'emploi. Quand on dit emploi, ça ne veut pas dire seulement trouver un emploi, mais aussi les jeunes qui sont par exemple dans l'université, qui ne trouvent pas encore leur mission de vie, leur chemin et qui n'osent pas postuler ou qu'ils disent que « Ah non, mais je ne coche pas tous les critères pour pouvoir postuler. » Mais non, justement, à ces femmes-là, jeunes, d'aller oser, d'aller briser ces barrières, ces obstacles qui le freinent dans le syndrome de l'imposteur et de se dire non mais lancez-vous, même si vous ne cochez pas toutes les cases, lancez-vous et postulez. Et parmi eux aussi, c'est également le leadership, parce que les femmes, elles se freinent beaucoup par rapport au leadership, où elles se limitent à certains postes minimalistes au lieu d'oser grimper les échelons. Et parfois, ils ne se réfléchissent même pas de grimper ces échelons-là. Donc c'est important, je trouve, que d'aborder ces sujets-là et de normaliser le leadership féminin.
Normaliser le leadership féminin, c'est de Ben Saïd.
Oui, et en fait, moi, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que, en fait, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais on ne parle pas assez de personnalité et de coaching. Et pour moi, en fait, ces notions-là sont essentielles. Pour moi, avant d'être entrepreneur, il faut faire un travail sur soi, se connaître, pour pouvoir diriger les autres. Et ça, pour moi, c'est la base. Et donc, dans toutes les incubateurs, on parle tout le temps de compétences au niveau techniques, mais pas forcément les compétences sociales, l'intelligence émotionnelle. Ce sont les bases pour moi à l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Et donc, je suis très ravie qu'on puisse en parler lors d'événements. Mais c'est essentiel. C'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, je pense que... Mais moi, je l'ai eu au départ et c'est un travail que j'ai fait sur moi. C'est-à-dire au départ, je ne voulais pas être visible. Je ne voulais pas forcément avoir de voix. Je voulais qu'on me connaisse pour mes compétences. Mais... de bouche à oreille, donc c'était pas quelque chose qui était fait. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai une voix, je mets des graines, en fait, je sème des graines quand je parle à des femmes. Et donc, pour moi, c'est essentiel de pouvoir justement semer des graines, chacune d'entre nous, pour pouvoir aider les autres. Et donc, pour moi, c'est essentiel.
Je te rejoins tout à fait, parce que justement, quand on a préparé la conférence débat et qu'ils nous ont dit oui, mais un peu d'entrepreneuriat, j'ai dit ok, mais en fait, dans la société d'aujourd'hui, surtout ici à Bruxelles, quelque chose qui me dérange par rapport à l'entrepreneuriat, c'est qu'on impose toujours, on relie l'entrepreneuriat à créer une entreprise. Alors qu'en on peut entreprendre sa propre vie, on peut entreprendre sa propre mission de vie, sa personnalité, et aussi être heureux dans son poste où il est, entreprendre ses actions dans ce poste-là. Et donc, je trouve ça vraiment dommage qu'actuellement, on relie l'entrepreneuriat à se limiter à avoir une entreprise. Et du coup, ça met une pression mentale aux femmes de se dire, pour sentir entrepreneuse, leader et avoir un statut, ah, mais je dois ouvrir cette entreprise. Non, tu peux être heureuse là où tu es, juste en entreprenant aussi ta vie, en commençant par ta vie, quoi.
Juliette Malherbe, la nuance est importante ?
Non, c'est très important et c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités d'entreprendre et il faut travailler sur cette connaissance de soi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'évoquer.
Ça me donne envie de t'embaucher pour le sommet. Non, c'est vraiment... En fait, on s'est rendu compte de plus en plus qu'on parle très peu en fait, de soft skills. Tout le monde entend parler, mais en fait, les soft skills...
Alors justement, l'auditrice et l'auditeur lambda qui ne s'y connaissent pas particulièrement... nécessairement, peut-être une explication.
Alors, on va être plus dans les compétences humaines, en fait. Voilà. Donc, intelligence émotionnelle, on en parlait tout à l'heure, l'intelligence collective, l'empathie, l'intuition, des choses qui sont peut-être parfois plus difficiles à mesurer. Mmh. Souvent, on va embaucher quelqu'un sur ses hard skills, c'est-à-dire, est-ce que tu sais utiliser Excel, Word, SAP, quel diplôme tu as, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont vraiment plutôt... j'ai envie de dire factuel, c'est un peu difficile en fait, c'est plus facile à mesurer. Et en fait, on se rend compte que souvent, quand les collaborations s'arrêtent dans les entreprises, c'est souvent plus à cause des soft skills, donc de la relation humaine, que du manque de compétences. Alors, ça ne veut pas dire que c'est jamais à cause du manque de compétences non plus, mais c'est vraiment une grande partie. Et donc en fait, avec le sommet, une des choses qu'on a vraiment envie d'apporter, c'est justement une ouverture en fait à ces soft skills et pouvoir comprendre que quand on recrute quelqu'un ou quand on veut s'orienter en fait dans notre vie professionnelle, cette dimension-là, cette dimension de l'humain est absolument immensément importante en fait. Mm-hmm. Et donc de remettre le focus dessus.
Alors dans votre travail d'inspiration professionnelle aussi, je reste avec vous, il y a aussi de la spiritualité dans votre approche, pouvez-vous nous en parler ? C'est quand même intriguant.
J'aime bien. L'idée, c'est que ça soit justement de moins en moins intriguant. Aujourd'hui, si on en revient un peu sur les hard skills, on est en train de rédiger un post sur est-ce que tu es intelligent ou intelligent ou intelligente. Quand on fait référence à ça, souvent, en fait, on fait référence au QI, si on va le mesurer, hein, mais une intelligence qui est souvent un peu mathématique, éventuellement sur les langues, l'art, bon. Et le côté l'intelligence émotionnelle, c'est pas vraiment souvent à ça qu'on fait référence. Donc en fait, derrière la dimension spirituelle, il y a vraiment cette compréhension que l'humain n'est pas juste une tête. L'humain est un cœur, est un corps, il a des émotions, il a une énergie. Et donc, en fait, on a vraiment envie d'inviter en fait, les participants à reprendre conscience qu'ils sont multidimensionnels. Qu'il y a toute une partie qui est très physique, mais qu'il y a plein de choses qui ne se voient pas. Les émotions, ça ne se voit pas, l'intuition, ça ne se voit pas, l'énergie, ça ne se voit pas, ça se sent. Et donc, en fait, à travers différents types de conférences et d'ateliers, on invite les personnes à se reconnecter, en fait, à cette dimension qui est finalement plus grande qu'eux. Alors, plus grande que déjà eux, juste le corps physique, parce qu'on a vraiment tendance à s'identifier aussi à ça. Et donc, se reconnecter, quand on disait tout à l'heure, tu parlais de mission de vie, de vraiment se reconnecter à quelque chose de plus grand, à se dire que, on n'est peut-être pas là par hasard, qu'on n'a peut-être pas ses désirs et ses envies et cette voix dont tu parlais tout à l'heure, Zineb, aussi, par hasard, et de pouvoir vraiment reconnecter, en fait, les personnes avec une mission de vie, avec une voix à porter, avec une unicité, une singularité, et leur dire que en fait, on s'en fiche que les gens autour d'elles, autour d'eux soient en fait différents, mais de vraiment ramener chacun et chacune à embrasser en fait son unicité, parce que le monde vraiment pour moi en a besoin, et plus on sera de personnes à être dans notre vérité, à être à une place qui nous fait vibrer, je pense que plus le monde ira bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on a envie d'apporter.
Zainab ?
Oui, et ce que je pourrais ajouter aussi, c'est qu'en fait, il faut rester authentique. Et donc, en fait, cette reconnexion en soi permet en fait de justement d'amener l'authenticité et de pas se perdre aussi dans un personnage. Et donc ça, c'est super important et je suis tout à fait d'accord avec toi, Camille. C'est hyper important parce qu'il y a d'autres... l'autre importance pour moi est en fait le réseau. Et donc si on voit justement, par exemple, j'ai un réseau vraiment international et en fait ce qui me lie à mon réseau, c'est les liens humains et d'affection que j'ai. Et d'ailleurs, même si on voit, par exemple, il y a des études d'Harvard qui sont faites sur... ils disent que, justement, le succès aussi de l'entrepreneuriat, c'est à travers les relations qu'on noue avec les clients, avec les partenaires, avec voilà, des personnes qu'on ne soupçonne pas au départ, qui peuvent être incroyables par la suite. Et donc, c'est de vraiment, en fait, créer cette énergie autour de soi. Et en fait, finalement, ça suit. Et donc, à chaque fois, justement, on rencontre jamais quelqu'un par hasard. Et moi, j'estime que chaque personne que je rencontre m'apporte quelque chose. Et que ça soit maintenant ou plus tard, voilà, quelque chose peut se faire et on ne sait jamais voilà, ce que l'avenir réserve. Et donc, c'est pour ça que les relations humaines sont essentielles, en tout cas dans l'entrepreneuriat aussi.
Jasmine, les relations humaines, cet aspect aussi qu'on a tendance à oublier et malheureusement qui fait partie de la réalité de tous les jours, comment faire justement pour garder ce côté humain dans la profession ou dans le monde des affaires?
En fait, moi, personnellement, vu que moi, je suis naturellement sociable, donc j'ai vraiment ce contact facile avec les gens. Et pour moi, franchement, je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. C'est grâce à ce contact humain, des personnes qui ont cru en mes capacités, ont cru à ma façon de faire, ma façon de penser, ma créativité. Parce que justement, des savoir-faire d'un être humain, sa créativité, le fait que j'ai pu justement décrocher un job aux Nations Unies, c'est grâce à la relation humaine. C'était même pas grâce à mon diplôme, parce que j'étais pas encore diplômée quand j'étais rentrée aux Nations Unies. Et pour vous dire que la seule conseil que je peux donner aux jeunes, aux femmes, aux hommes, à tout le monde, vraiment négligez pas les rencontres que vous faites et ne les sous-estimez pas. Et vraiment, et peu importe une personne, ça peut être une random personne que vous rencontrez dans le train, vraiment ne la sous-estimez pas du tout parce que vous savez pas ce que cette personne-là elle peut vous apporter. C'est vraiment moi les croyances que vraiment je porte par rapport à ça, de dire oser aller vers les personnes, oser demander de l'aide quand il y a, oser de trouver des connexions, chercher sur internet. Google, c'est le meilleur ami, Instagram c'est aussi le meilleur ami, LinkedIn c'est le meilleur ami. Quand vous voulez par exemple décrocher un job ou rentrer en partenariat en business avec quelqu'un, taper son nom sur LinkedIn et envoyer un message, la relation ça commence par là. Et donc ça, c'est le conseil que je donne, c'est pour sortir de sa zone de confort. Je pense qu'il faut faire un travail sur soi et aller oser vers l'autre humain. Même si tu sois rejeté, c'est pas grave, peut-être que c'est un rejet sur 10, mais au moins t'as tenté.
On a compris vos croyances. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je pense que le rejet, on apprend aussi.
Il n'y a rien de mal.
Il y a aussi beaucoup d'expériences que j'ai vues, par exemple, où on se sent rejeté au départ. Et au final, en fait, on arrive à rebondir et que finalement, ça se transforme en belle relation par la suite.
Oui, il n'y a rien de mal. Tu gardes ton sourire.
Tu apprends de l'échec aussi. C'est super important.
Et tu te développes, en fait. Et tu te dis, mais OK, mais c'est pas grave. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Je cherche un autre. Mais ça ne doit pas.
Exactement.
On a compris vos croyances, Jasmine. Vos croyances à vous, Juliette Malherbe, dans le secteur.
Moi, les miennes, c'est bon. C'est marrant parce que je pense qu'ici, on est tout autour de la table aussi. On a accepté cette invitation en se disant OK, go. Et donc, on est toutes dans le même état d'esprit. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les femmes ou tous les hommes sont dans cet état d'esprit-là et qui osent et qui ont ce côté sociable. Moi, voilà, je suis aussi quelqu'un d'extraverti et qui aime rencontrer. Dans l'entrepreneuriat, c'est super important d'être entouré, d'avoir une communauté et un réseau. Et on se rend compte que les femmes ont moins ce réseau que les hommes. Souvent, quand on va dans des événements de networking, il y a une grande majorité d'hommes. Et donc, c'est aussi super important, et avec iHer et Women in Tech aussi, c'est en fait de créer ces communautés de femmes pour se faire connaître et s'aider à rencontrer des personnes en dehors de ses collègues, ses amis, voilà. Et de faire grandir
encore
ce réseau.
Encore une minute avant la pause, Zainab.
Oui, et moi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle dit. Enfin, moi, par exemple, j'ai été mentorée par justement des hommes. Et donc, en fait, moi, je peux me représenter autant chez un homme qu'une femme. Et pour moi, c'est important aussi de le souligner. Donc, en fait, je peux représenter un rôle modèle pour certaines femmes parce qu'elles vont ressentir une facilité à venir vers moi pour parler de certaines problématiques. Mais moi, par exemple, j'ai été mentorée par des hommes qui m'ont appris justement à être aussi dans un monde majoritairement...
Les problèmes et les embûches pendant votre parcours, je voudrais avoir quelques exemples concrets, mais juste après une petite pause.
20h, Cash sur table sur Arabelle.
Et on retrouve nos invités Juliette Malherbe, Jasmine Delmonté, Camille Rimbaud et Zina Bensaïd. Rebonsoir.
Bonsoir.
Dans cette troisième et dernière partie, pour illustrer les difficultés auxquelles sont encore confrontées trop souvent les femmes qui souhaitent se lancer dans le monde des affaires, dans le business, j'aimerais que vous nous fassiez part d'un exemple, d'un cas concret, d'une de vos expériences qui démontre que cela n'a pas été un long fleuve tranquille pour vous, mais qu'il a fallu non seulement du courage, mais beaucoup de travail aussi. Je commence avec vous, Zeynep, par exemple.
Oui, mais en fait, moi, par exemple, c'était plus la période du Covid où il a fallu vraiment se réinventer. Et il y a eu beaucoup de changements. Je pense on oublie cette période-là, mais je pense que ça a beaucoup impacté aussi l'entrepreneuriat. Mais en même temps, je pense que ça a créé des opportunités d'entreprendre et de remettre en question finalement certains services en fait qu'on mettait en place. Et donc c'est vrai que moi, là, par exemple, la période du Covid a été vraiment la grande réflexion sur les orientations stratégiques de la société. Et après, en fait, aussi, par exemple, lancer deux activités aussi en même temps, pour moi, c'était vraiment un challenge. On avait aussi des levées de fonds au niveau de nos sociétés, etc. Donc c'est quelque chose pour moi qui était vraiment des gros challenges. Après, il y a aussi, par rapport à des expériences qu'on a eues, moi je fais de la levée de fonds, donc il y a toutes des parties juridiques qui peuvent interférer dans tout ça. Et donc le fait d'être justement bien conseillé, bien entouré, pour moi est vraiment primordial. Et je pense que c'est le fait d'être entouré par des experts en fait, de chaque catégorie, parce qu'on ne peut pas tout couvrir, était important pour moi. Et donc voilà, c'était une des réflexions que j'ai eues, en tout cas pendant mon parcours.
Zeynep Bensaïd, je rappelle que vous êtes vice-présidente, cofondatrice de Delfox et Isfin. Je me tourne vers vous, Juliette Malherbe, nouvelle directrice de Hiher. Une expérience qui vous a peut-être marqué dans votre parcours ?
Oui, je réfléchissais pendant que Zeynep parlait et je me suis dit, bon, je vais peut-être donner un truc bateau, mais je me rends compte que j'ai dû avoir des échecs, des noms à des jobs, et à chaque fois, je me suis dit que c'était pour un bien. Et du coup, pour moi, je vais toujours essayer d'aller plus loin, enfin, j'irai toujours plus loin. Et puis, moi, si les choses se font pas, Bon, parfois on est déçu au moment même, mais après je me suis toujours rendu compte que c'était bien. Et du coup, je vois pas aujourd'hui une grosse erreur qui s'est présentée à moi, parce que j'ai toujours vu ça en fait comme des opportunités. Et parfois on me dit non et je vais aller jusqu'au bout pour qu'on me dise oui, ou alors je vais me rendre compte qu'en fait c'était très bien qu'on m'ait dit non parce que ça ne me convenait pas. Donc voilà. Ça, c'est ma réponse. Après, en fait, moi, j'ai deux casquettes. Je suis entrepreneur et employée aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de réflexions aussi en moi, parce que c'est deux mondes qui sont très différents. Et c'est très intéressant d'aujourd'hui vivre l'entrepreneuriat. Il faut beaucoup de courage. Je m'en rends compte. Et voilà. Là, aujourd'hui, je sens que je vais découvrir aussi les gros up and down de l'entrepreneuriat que je voyais de l'extérieur en accompagnant des entrepreneurs. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur social, je le vis plus. J'aurais peut-être d'autres réponses à apporter dans un an ou deux.
Jasmine Delmonté, entrepreneuse sociale et fondatrice de l'organisation internationale Stronger with Words.
Moi, je rejoins aussi Juliette, parce que comme ça, tu te sens pas tout seul. Moi aussi, j'ai la casquette d'entrepreneuse et employée full-time au Parlement, donc je peux tout à fait comprendre, mais pour moi, rien n'est impossible. Franchement, moi, la vraiment anecdote que ça m'a vraiment fait mal au cœur, c'est qu'à mon retour, quand je suis revenue des États-Unis, donc je voulais ouvrir mon organisation, ben, j'étais dans le néon. J'avais personne pour m'aider, je savais pas vers où y aller, vers où me diriger. Et le pire de tout cela, c'est que quelque chose qui m'a encore flué, moi, j'attendais, parce que je suis venue avec le mindset, en mode, oui, l'empowerment des femmes, la sororité, j'arrive en Belgique. En fait, je trouve que toutes les femmes que je connaissais autour, ils m'ont plus vue comme une sorte de concurrence qu'une aide que je puisse... qu'une aide ou un empowerment qu'on peut ensemble créer des choses ensemble. Enfin, j'ai vécu des choses par rapport à ça. C'était plus des femmes qui m'ont fait des coups que des hommes, malheureusement. C'est pour ça que dans notre AS ISBL, vraiment, on défend que ce soit homme ou femme ensemble pour pouvoir collaborer, parce qu'il y a vraiment aussi beaucoup d'hommes qui m'ont aidé dans le parcours qu'ils ont créé dans mon ISBL, comme il y a des femmes qu'ils ont créé dans l'ISBL. Mais vraiment, le premier coup que j'ai eu dès mon arrivée ici, c'était vraiment des femmes qui m'ont vu comme une sorte de concurrence, alors que moi, je suis venue en mode innocente, viens, on fait les choses ensemble. Et vraiment, ça, c'était vraiment un coup dur pour moi.
Camille Rimbaud, fondatrice de l'ISBL Inspired By. Même question pour illustrer donc peut-être une de vos expériences.
Moi, j'ai envie de revenir sur une expérience quand je bossais justement dans l'industrie pharmaceutique, donc en corporate, où je me suis retrouvée en fait dans des situations où en fait on savait que ce qu'on faisait n'avait aucun sens et en fait ça choquait personne. Et je me souviens en fait j'animais à l'époque un meeting et en fait mon supérieur comprenait pas en fait à quoi on servait, à quoi servait le meeting, alors qu'on c'était dans son équipe. Oui. Et donc je me suis vraiment retrouvée en fait dans une situation où, très jeune en fait, entourée de beaucoup de gens beaucoup plus vieilles, j'ai dû taper en fait du poing sur la table en remettant en fait au centre le fait que c'est important que ce qu'on fasse a du sens. Et donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui a aussi qui a finalement peut-être été les prémices de ce que j'ai lancé après. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très important de pouvoir challenger en fait ce qu'on fait, qu'on soit employé, entrepreneur. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être assez jeune en fait à des postes qui étaient à responsabilité et de pouvoir juste oser dire en fait quand on trouve.
Est-ce qu'on vous laisse faire?
Alors là, j'ai envie de dire cette fois-ci, j'ai pas laissé le choix, mais je pense qu'en effet, parfois, on n'écoute pas. Mm-hmm. Et si je rebondis justement sur votre question, moi, j'ai eu beaucoup de conversations avec des vice-présidents en fait dans la boîte dans laquelle j'étais, des personnes qui avaient la soixantaine passée, qui avaient toute leur carrière derrière eux, et je leur disais, je sens que on va dans le mur. Je sens que les burn-out vont monter. Je sens que ça va être plus compliqué de recruter dans les années à venir. Je savais pas vraiment expliquer comment, parce qu'à l'époque, il y avait personne en fait autour de moi qui avait fait de burn-out. J'en avais pas encore fait d'ailleurs, et j'avais pas de chiffres en fait pour montrer ça. Et donc on en a discuté, mais il y a pas vraiment grand chose qui ont été mis en place. Et quelques années après, on regarde les chiffres, les burn-out explosent, c'est devenu plus difficile en fait de recruter. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça autour de, alors peut-être que c'est aussi en lien avec les femmes et tout, mais de vraiment oser en fait porter notre voix. C'est pas grave si tout le monde ne nous entend pas, mais au moins après on peut se dire, ah bah tiens, en fait voilà, j'ai osé dire, j'ai senti quelque chose qui était peut-être pas encore visible, et de vraiment apprendre à se faire confiance en fait comme ça.
Oser dire, Zeynep Ben Saïd, est-ce qu'on vous laisse parler, je pense notamment aux différentes hiérarchies?
En fait, oui, parce qu'en fait, on a toujours été moi, personnellement, j'ai toujours été dans une hiérarchie collaborative. Donc, c'est-à-dire que moi-même, au sein de mon équipe, j'ai formé des stagiaires, j'ai mentoré. J'ai toujours créé, en fait, une relation vraiment bien spécifique avec les différentes personnes qui ont travaillé pour moi ou qui ont fait partie du parcours. Et donc, pour moi, c'est important. Je pense que aussi, si je peux rebondir, Camille, c'est par rapport aux échecs, on n'en parle pas. Donc, on parle que de la partie succès. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit aborder. C'est pas parce que... je pense que j'ai un peu le même mindset que Juliette. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais tomber une fois que je vais pas me relever. Et donc, ça me fait penser aussi à une autre expérience où j'étais venue justement... Donc, moi, mon parcours, j'étais au Maroc à 18 ans. Je fais mes études en France et mon expérience professionnelle en Belgique. Quand j'ai intégré le marché belge avec un diplôme français, c'était compliqué pour moi, à une période où justement il n'y avait pas forcément d'emploi ou des choses comme ça. Et donc en fait j'ai accepté des postes qui n'étaient pas forcément par rapport à la formation, mais voilà, il fallait commencer quelque part et j'ai accepté. Mais j'ai toujours voulu aller à l'international, et pour moi c'était ce qui me boostait, d'être en contact avec les gens, être à l'international. Et donc c'est-à-dire pour moi c'est pas vraiment un échec, parce que moi je pense que chaque expérience tu apprends, et donc je suis dans la même logique. Mais c'est vrai qu'au départ on me dit, ah oui mais j'étais refusée, ah mais j'ai envoyé 200 CV et pourtant il n'y a pas eu forcément de réponse, et on comprend pas trop mon profil parce que je suis atypique et je rentre pas dans les cases. Et donc au final, en fait, par rapport à ça, pour moi, c'est important d'en parler aussi.
Ok, on va marquer encore.
Je voulais juste rebondir, en fait, c'est drôle, parce que du coup, moi, maintenant, j'ai un diplôme d'ingé, un master 2 en chimie organique, et aujourd'hui, quand je me présente, ça fait aucun sens, parce que c'est plus du tout en lien, en fait, avec ce que je fais, donc même si ça me fait un beau CV, des beaux diplômes, aujourd'hui, à la rigueur, je peux les encadrer, mais ils ne savent plus à grand-chose je postule.
Ne bougez surtout pas, une dernière courte pause pour notre dernière ligne droite, pour se projeter vers demain. Que faut-il encore faire pour améliorer pour permettre aux femmes de se lancer facilement dans le monde des affaires. On voit tout cela tout de suite.
C'est Cash sur Table sur Arabelle.
On retrouve tout de suite nos invités à la pause. C'était très animé. On parlait du quota dans les conseils d'administration, des avis plutôt partagés. On commence avec vous, Zainab Ben Saïd.
que dire non, je pense que c'est... En fait, il y a des personnes pour et des personnes contre. Et moi, de toutes les manières, je vais pas me positionner sur ce débat. Mais je pense que c'est important que les femmes compétentes, voilà, compétentes, aient une place dans des conseils d'administration. Mais c'est vrai qu'au niveau, pour trouver ce type de profil, il faut dire aussi que c'est plus complexe. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas juste lier ça aux femmes. Il faut qu'il y ait une diversité, il faut qu'il y ait une inclusion. Et donc, quelles que soient voilà, les différentes communautés doivent être représentées dans ces quotas-là.
Ouais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est plus compliqué. Il y a énormément de femmes compétentes. Alors, bien sûr, il faut la compétence. Mais aujourd'hui, pour moi, on est obligé de passer par là. Parce qu'il y a des conseils d'administration qui sont uniquement masculins et c'est une pyramide en fait. Si on se retrouve entre hommes blancs, on a étudié avec des hommes blancs, et ben on va prendre des hommes blancs qu'on connaît dans le conseil. Alors que si on diversifie à cette couche-là des sociétés, ça permet d'avoir plus de diversité. Alors aujourd'hui, on parle de hommes et femmes parce que c'est plus facile, mais évidemment, il faudrait parler de quotas pour toutes les minorités. Mais c'est plus difficile publiquement de pouvoir mettre toutes les minorités. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel aujourd'hui de passer par là. On voit que ça a quadruplé le nombre de femmes dans les conseils d'administration. Et encore, on n'arrive pas aux 30% qui sont demandés par le gouvernement.
Mais après, ce que je peux rajouter, il y a aussi des critères pour être dans le banc d'un conseil d'administration. Et il y a certaines femmes qui ne peuvent pas remplir tous les critères. Et je pense que peut-être que la question n'est plus dans les quotas, mais les critères de sélection dans les conseils d'administration.
Mais dans ce cas-là, s'il y a des critères, il faut avoir des critères pour les hommes et pour les femmes.
Voilà,
pour
les
être
deux,
totalement
voilà,
juste.
C'est ça, exactement.
Mais alors, le temps passe très vite. Camille Rameau, peut-être une réaction, votre réaction par rapport à ce débat sur le quota dans les conseils d'administration.
Alors moi, de toute manière, je suis plus pour, en fait, parce que je crois qu'aujourd'hui, les chiffres sont tellement bas que si on commence à enlever les quotas, je n'ai pas l'impression qu'on va aller dans la bonne direction. Je pense que quand tu parlais, Zineb, de compétences, bah, en fait, il y a plein de moments où on ne va pas se poser la compétence pour un homme et tout d'un coup, parce qu'on veut avoir une égalité en termes de chiffres sur les femmes, on va se poser la question de la compétence des femmes. Alors qu'on se pose la compétence pour la personne dans le poste, que ça soit un homme ou une femme, je pense que c'est important de pouvoir voir les choses de la même, même angle.
Je rejoins Yasmine et je te rejoins
voilà,
à ce niveau-là. Ouais.
Évidemment, et puis je pense vraiment, et on en parlait aussi tout à l'heure, il faut que le système change à la base, c'est-à-dire que quand on a des femmes qui n'osent pas faire des études ou qui n'osent pas aller postuler sur certains postes, bah c'est sûr qu'après, quand on monte jusqu'au conseil d'administration, bah, y en a forcément de moins en moins. Et quand on se retrouve avec un board, que ce soit un conseil d'administration, un COMEX, n'importe quoi, où il y a particulièrement des hommes, bah en fait, on va prendre des décisions qui continuent en fait à revêtir une énergie en fait d'hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la société, on a aussi besoin d'avoir plus de femmes qui représentent et des décisions qui soient prises en fait et qui représentent davantage les femmes. Donc pour moi, c'est vraiment important de continuer à avancer en fait dans cette direction-là.
Et que ça puisse représenter la diversité du monde dans lequel on vit.
Voilà,
parce que
en fait,
c'est surtout ça.
Moi,
il faut que ça représente la société.
La
et là, aujourd'hui,
et
c'est
aussi, on
ne
peut pas se le mentir, si on veut vers une inégalité, on est obligé de passer par ces quotas-là pour pouvoir au moins combattre ces inégalités-là que les femmes y subissent, en fait. Sinon, comment, s'il n'y a pas ces quotas-là, comment les femmes peuvent être aujourd'hui autour de la table, en fait.
Ouais. Voilà, il nous reste trois petites minutes. On va essayer de faire très vite un tour de table pour se projeter vers demain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encore améliorer et permettre aux femmes de se lancer plus facilement, je le disais tout à l'heure, dans le monde des affaires et être des leaders plutôt efficaces et influentes dans la société? Je commence par vous, Camille Rameau, rapidement.
Alors, j'ai juste envie de rebondir sur le mot « efficace ». Oui. J'avais pas vraiment prévu de rebondir sur ça, mais je crois que justement, en fait, quand on parlait de soft skills et de hard skills tout à l'heure, je pense que, et dans les critères de succès, oui, il y a vraiment quelque chose où c'est important d'ouvrir, en fait. L'efficacité, c'est une chose. Il y a plein d'autres choses qu'on peut apporter. Et donc, je pense que pour pouvoir regarder en fait vers demain, c'est justement ouvrir les horizons. Peut-être qu'on doit sortir justement un peu de l'efficacité, de la performance, pour revenir sur quelque chose qui fait plus de sens, qui amène plus de bien-être. Je pense qu'aujourd'hui, la société, elle ferait du bien. En fait, on gagnerait beaucoup en fait à ralentir et peut-être à vouloir être justement un peu moins efficace.
Rapidement, Jasmine Delmonté.
Enfin, pour moi, c'est d'abord juste oser, en fait, de prendre le pas, de oser, peu importe le résultat qu'on aura en tant que femme lorsqu'on se lance en entrepreneuriat. C'est parce qu'un homme, il va jamais réfléchir 1000 fois avant de se lancer. Il va dire, OK, j'ai envie de faire ces idées, je vais me lancer. Je pense que nous, en tant que femme, on doit faire un travail sur nous, de oser se lancer sans mettre en question nos compétences. Et s'il y a quelque chose qui manque, ben, on essaie de se auto-former pour pouvoir mieux se développer en tant que femme. Donc vraiment oser se lancer, peu importe le résultat, échec ou réussite.
Juliette Malherbe.
Oui, la légitimité. Et puis oui, se lancer, y aller. Je pense que les rôles modèles aussi peuvent vraiment aider à ce point-là, de voir d'autres personnes. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est complémentarité homme-femme. Ouais. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se lancent seules. Et en fait, qu'elles trouvent une autre femme ou un homme pour se lancer, ça va aussi beaucoup aider les femmes à oser et à y aller ensemble.
Zainab Ben Saïd.
Oui, donc moi je dis croyez en vous, c'est-à-dire sortez de vos croyances limitantes, voilà, foncez, créez votre réseau, voilà, travaillez vraiment sur vous et voilà. Et moi, enfin, je pense que les femmes, on a tous une histoire et on est tous battantes. Et donc je reprends une phrase, on ne sait jamais en fait d'où vient la force d'une femme, et en fait c'est cette force finalement qui fait peur. Et donc, je pense que, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est ce qui fait vraiment notre force au final. C'est-à-dire qu'en fonction de nos vécus, de nos histoires, nous avons cette capacité à pouvoir, voilà, à pouvoir réussir.
Voilà. Et seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.
Tout à fait.
Je voulais juste rajouter que quand on a une idée, je crois qu'on n'a pas une idée par hasard. Quand on a une idée de projet, quand on a, voilà, de vraiment lui faire confiance et de se dire, OK, cette idée, elle va me guider, elle va me permettre de me développer. C'est pas grave si je sais pas tout maintenant. L'idée va me guider jusqu'à ce que je puisse en fait lui donner vie.
Voilà, c'était la conclusion, notamment de Camille Rimbaud, qui est fondatrice de l'ASBL Inspired By. Était avec nous aussi Juliette Malherbe, nouvelle directrice de HiHer, et Jasmine Delmonté, entrepreneuse sociale et fondatrice de l'organisation internationale Stronger With Words, et Zainab Ben Saïd, qui est vice-présidente et cofondatrice de Delfox et Isfini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Arabelle.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de Cash sur Table. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous.